Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro des Mille et Une Bulles, bien sûr toujours sur Radio Présence Figeac 97.7. Cette semaine, nous accueillons un auteur qui est à la fois dessinateur et scénariste. C'est donc aujourd'hui Romain Pujol. Romain, bonjour, comment vas-tu ?
Hey, bonjour, ben ça va très bien, en direct de Toulouse.
Ah oui, alors Toulouse. Toulouse. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a des auteurs de Toulouse. Ouais, je fais un ressort pas mal, c'est bien.
Alors, en fait, je travaille dans un atelier collectif d'auteurs.
Ah, d'accord.
L'aquarium. Et il y a pas mal de monde. Il y a Serge Carrère, qui est quand même un taulier de la BD. Christophe Beck, Dabs, il y a pas mal de gens quand même.
Ah oui, un beau casting. Ça me donne envie, là. Ne serait-ce que Serge Carrère et Christophe Beck, j'avoue.
Ouais.
Donc on va commencer, Romain, s'il te plaît. Donc la première question rituelle, c'est quelles sont les BD qui ont bercé ton enfance ?
Alors moi, les BD de mon enfance, ça va plutôt... alors forcément, d'abord, il y a les BD de mon père. C'était les premiers Astérix, les BD, on va dire, les BD cultes. Voilà, les BD incontournables qui sont dans toutes les familles. Mais par contre, moi, les premières BD qui ont vraiment éveillé mon goût pour le dessin et pour la bande dessinée, en fait, elles proviennent du magazine Cho, T-C-H-O.
Ah oui.
Le magazine de Titeuf.
Exact.
À la base, moi, je l'avais acheté uniquement pour le gadget, d'ailleurs, parce que c'était un peu comme Pete Gadget, il y avait toujours un jouet ou un truc comme ça. Donc, moi, d'abord, je me suis fait avoir par le jouet, et après, je me suis fait avoir par les BD. Donc, Titeuf, Samson et Néant, des BD comme ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Dabs tout à l'heure, mais Dabs était aussi un auteur que je lisais quand j'étais petit, et maintenant je travaille dans l'atelier avec lui, donc c'est assez marrant de voir ce parcours
de
gens qui m'ont inspiré, avec qui je me retrouve maintenant dans le même atelier.
Ça va être top, oui. Et du coup, donc on va au début de ta carrière. Donc, en 2006, j'ai vu que tu avais obtenu un second prix au concours BD de Colomiers, et c'est là, donc, j'ai lu dans les interviews sur Google, c'est là qu'avec tu as eu le déclic, et j'ai dit « je veux devenir dessinateur de BD ».
Ouais, il y a eu plusieurs moments en fait qui ont confirmé cette envie de faire de la bande dessinée. Il y a eu donc ce prix à Colomiers, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Je me souviens que je passais le bac à l'époque, donc c'était vraiment, j'étais pas majeur, et j'avais un petit site internet que je démarrais aussi, où je postais des dessins régulièrement, et donc j'avais fait ce petit concours à Colomiers. Et le fait d'être second prix, c'était assez encourageant. Je me suis dit, ah bah, j'ai peut-être un truc à jouer. Et après, ça m'a permis de continuer à faire ce site internet, à continuer à faire de nouveaux dessins pour mes lecteurs. Et puis petit à petit, d'avoir une communauté. Ça m'a donné un peu confiance en moi quand même, ce moment de Colomiers. C'était un beau souvenir d'enfance, ouais.
Oui, ça donne mis le pied à l'étrier. Et donc, j'ai vu qu'ensuite, ouais, tu enchaînes avec ton blog Delirarium. Explique-nous.
Delirarium, ouais. Bah, en fait, ce blog, c'était vraiment, c'est au même moment que Colomiers, c'était vraiment ce moment où je me suis dit, bon, le dessin, c'est quelque chose qui m'anime un petit peu quand même. J'avais pas de compétences spécifiques, j'étais pas spécialement bon dans les autres matières. En art, j'étais plutôt bon. Et le dessin, c'était ce qui faisait que les gens me regardaient un peu. C'est le moment un peu pathos, mais en vrai, j'avais pas tellement de copains à l'époque du collège, lycée, j'avais pas tellement confiance en moi. Et vraiment, quand je dessinais, bah, je sentais que les gens regardaient mes dessins et je commençais à me faire des copains, en fait.
Et bien justement, excuse-moi pour l'anecdote, je crois que justement, t'arrêtais pas de croquer au niveau caricature tes copains et des profs.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça, en fait. C'est que petit à petit, bah, je dessine un copain et bah, les autres rigolent un peu. Et en fait, petit à petit, ça crée vraiment un petit groupe d'amis. Et ça m'a vraiment aidé à sociabiliser, en fait, le dessin. Parce que sinon, j'étais très timide et très renfermé. Et maintenant, ben voilà, j'ai plus ce problème-là. Je fais des interventions devant des classes et tout ça. Avant, c'était inenvisageable. Mais j'étais vraiment très timide. Et le dessin, ça m'a permis de casser un peu ces petites barrières et voilà, d'avoir confiance en moi. Donc, le blog m'a permis aussi de continuer virtuellement à dessiner. Tous les jours, je dessinais. Je postais un petit dessin. Et puis, j'avais de plus en plus de lecteurs. Et c'est comme ça que ça a débouché sur des rencontres professionnelles.
Alors j'ai vu, bon, ça c'était le côté BD, et en faisant des recherches sur ta carrière, il y a un petit passage qui m'a fait sourire, parce que donc tu as obtenu une licence d'art appliqué à la faculté des sciences humaines du Mirail, donc à Toulouse déjà.
Ouais.
Et en fait, c'était pour faire plaisir à tes parents, à la base.
Ouais, j'ai de très bons parents, hein, déjà, faut quand même dire ce qui est. J'ai des parents qui sont super gentils, super attentionnés. Mais quand on dit qu'on veut faire auteur BD, quand on sait que le métier est quand même assez précaire, moi en plus à 17 ans ce que je faisais c'était j'avais pas un dessin extraordinaire non plus, donc c'est pas hyper rassurant. Donc mes parents m'ont dit passe ta licence, continue un peu tes études, comme ça bah, si jamais la BD ne marche pas, tu auras quand même un diplôme, quoi. Donc c'était l'idée. Donc je l'ai fait pour leur faire plaisir un peu, mais je me sentais déjà prêt avant de faire ma licence d'art appliqué. Et j'ai fait ça au Mirail de Toulouse. En plus, l'art appliqué là-bas, bon, c'était pas. J'ai vraiment perdu du temps parce que c'était pas enrichissant du tout. La BD était interdite, en plus. Donc, dès que je voulais faire des cases de bande dessinée, on me disait non. Donc voilà, donc j'ai un peu serré les dents pendant quelques années, pendant 3 ans, et puis après, voilà, j'ai eu mon diplôme. Après mon diplôme, mon père m'a dit « Tu as 1 an pour faire de la bande dessinée. »
La pression.
La petite pression, mais j'ai réussi à tenir l'engagement, et direct, j'ai enchaîné avec les Lapins Crétins. En fait.
Mais j'ai vu qu'à une époque, par contre, alors je ne sais pas si c'est suite à Colomiers, mais tu avais rejoint le collectif les 30... les 30 jours de la BD, pardon.
Ouais, 30 jours de BD, en fait, faut savoir que la période entre 2007 et 2012, c'était une période qui était riche pour la BD sur Internet, parce que c'est l'arrivée de plein d'auteurs différents, en fait, qui popent sur le net, qui montrent leur travail. Et donc, 30 jours de BD, le concept, c'était un collectif où chaque jour, il y avait un auteur différent et une BD différente sur le site. Donc, c'était gratuit, évidemment, on payait pas. Et ça, c'était un peu le Netflix gratuit de la bande dessinée.
Okay.
Je crois même qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc vraiment, les gens, quand ils cherchaient du contenu, ils étaient vraiment obligés de fouiller sur Internet et donc de trouver des gens. Et là, ça rassemblait tout le monde, donc beaucoup de visibilité. Et dès qu'on était sur ce site et dès que notre planche était partagée, ça nous ramenait des gens aussi sur notre site Internet, ça nous faisait connaître, etc. C'était un petit tremplin sympathique, quoi.
Ouais, c'est nickel. Et je vais rebondir, donc tu parlais des Lapins Crétins. Justement, donc à une époque, tu as été retenu avec ton complice Titom pour reprendre Lapins Crétins et tu as quand même fait, enfin, si j'ai bien lu, 9 tomes. Raconte-nous, s'il te plaît.
En gros, on s'est rencontré avec Titom par mon site internet. À la base, moi, il faut savoir que je refusais beaucoup de gens parce que je faisais déjà scénario dessin couleur et j'avais pas besoin de scénariste. Et Titom, c'est le seul scénariste pour qui j'ai eu un petit coup de cœur, parce que quand même, il avait un niveau... Enfin, il me faisait rire. Et moi, quand on me fait rire, généralement, je peux difficilement dire non. Donc, il m'a proposé... On a monté un projet ensemble, qui a été en discussion pendant un moment chez Dupuis. Et entre-temps, on a eu l'opportunité de faire Les Lapins Crétins. Alors, Titom, il bossait déjà pour Game Over, la BD Game Over de Midam. Il était scénariste. Donc en plus, il avait déjà un pied dans la BD, donc aussi pour moi, c'était intéressant de me dire, je travaille avec quelqu'un qui est déjà un peu dans ce monde-là, c'est un peu rassurant, et en plus, il est doué. Donc voilà, et par ses contacts, il a pu avoir l'opportunité de faire Les Lapins Crétins en BD. Moi, comme je dessinais pour lui, je lui ai dit, si tu veux, je peux te faire un... J'ai vraiment en plus dit, sans aucune intention ni rien, il dit, si tu veux, moi, je peux t'aider à monter ton projet. On a monté le projet ensemble, et on a été pris tous les deux, en fait. C'est pas prévu, mais voilà. Ça m'a permis de faire Les Lapins Crétins derrière. Et effectivement, j'ai fait 9 tomes, les 9 premiers tomes de la série. Voilà.
Non, et puis c'est pour la Lapins Crétins, c'est génial. Le niveau visibilité, justement, c'est nickel.
Niveau visibilité, c'était assez énorme. C'était pas mal de pression et aussi un questionnement.
Oui, je me doute.
Moi, j'avais peur de la BD commerciale, en fait. C'est pas un truc spécialement que j'apprécie. Que j'en lisais pas des BD comme, je sais pas, il peut y avoir scènes de ménage en BD, des trucs comme ça, où c'est quand même, on sent que c'est pour surfer sur quelque chose d'un peu connu. Ça n'enlève en rien la qualité graphique ou la qualité scénaristique des œuvres, mais quand même les gens qui découvrent ça peuvent se dire ah oui, c'est une BD commerciale et c'est pourri, quoi. Donc j'avais peur de tomber dans ce créneau là et de me dire je vais être enfermé je vais être catalogué auteur de la BD commerciale, et c'est mon premier truc, un très gros tirage en plus, c'était tiré à 80 000 le premier tome.
Ah oui, quand même.
Donc il fallait pas je voulais pas donner une mauvaise image, et en fait on a vraiment essayé de faire un truc original. et les retours qu'on a eus, c'était que bah en fait les gens étaient surpris justement que en fait le commentaire qu'on a le plus souvent c'était c'est pas une BD commerciale en fait, c'est vraiment une BD, enfin, en tout cas les retours étaient positifs, c'est surprenant, c'était original, parce qu'en plus on joue avec les codes de la BD, on fait un peu de loup-bapeau avec les lapins crétins qui peuvent casser les planches, sortir d'une case à l'autre. Il y a une espèce de jeu comme ça avec le support du bouquin, donc ils sont pas là par hasard. Et donc c'est un peu un objectif aussi, voilà, de séduire avec ces personnages-là en BD.
Et justement, tu parlais d'une certaine pression quand tu reprends une série comme ça. J'ai vu aussi donc, que tu avais adapté une BD d'une chaîne YouTube intitulée Le Monde à l'envers. J'ai vu qu'il y avait quand même 4 millions d'abonnés. Donc j'imagine que c'est des fans. Quoi. Donc là aussi, tu as dû avoir la pression de faire ça.
Eh ben, paradoxalement, beaucoup moins que pour les lapins crétins.
Ah.
Déjà, on n'est pas dans les mêmes tirages. Hein. On n'est pas dans les mêmes volumes de vente, même s'il y a beaucoup d'abonnés. En fait, sur les 4 millions, sur YouTube, c'est un peu différent. Les 4 millions d'abonnés regardent un contenu qui est gratuit. À partir du moment où il faut se diriger vers un support différent qui est payant, c'est un peu plus compliqué. C'est rare, les YouTubeurs qui vendent beaucoup de BD. On a fait, par exemple, sur le premier tome, on a fait un peu plus de 30 000 exemplaires. Mmh. Donc c'est tout à fait honorable, mais c'est pas non plus par rapport à 4 millions, par rapport au volume que ça représente. Bon, c'est pas comme les lapins crétins où le public est déjà acquis, a l'habitude de payer pour des jeux vidéo. Bon, ben là, c'est un support différent, c'est une BD, donc ils y vont. Mais pour le monde à l'envers, pour y revenir, la collaboration, en plus, elle était très agréable et très, très tranquille. C'était des visios avec les youtubeurs, on discutait, on échangeait pas mal. Je faisais les storyboards. En plus, le dessinateur, c'est un ami toulousain qui s'appelle Orne Péréard, qui est assez talentueux, qui fait la BD plutôt réaliste habituellement, mais il est très drôle, il a beaucoup d'humour. Et il s'est dit, bon, bah, cette fois-ci, j'ai envie. Enfin, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah voilà, ça va être une BD à gag, un humour un peu potache, un peu trash. Est-ce que tu veux essayer un dessin un peu différent? Et donc, il a fait un dessin un peu cartoon, en se basant sur mes storyboards. Et ça marche assez bien. Je suis assez fier de cette série. Et c'était très rigolo à faire, vraiment. Et sans pression, en plus.
Ça, c'est nickel. Et alors, justement, tu parles donc de série, parce qu'il va bientôt falloir conclure la première partie, ça passe vraiment très vite, mais je ne voudrais pas oublier, donc, ta double casquette, t'es scénariste, t'es dessinateur. Donc, t'as plusieurs séries, j'ai vu, tu as Le Codex de Théo, tu as Belez et Malina, tu as Avni, et j'ai même vu que t'avais collaboré aussi sur un Kid Paddle. Comment tu fais pour gérer toutes ces séries, s'il te plaît?
Comment je fais, je sais pas moi-même. C'est une bonne question. Je jongle. Mais en fait, voilà, je switch d'un univers à un autre. Avni, c'est ma série que j'ai depuis 10 ans, par exemple. Donc c'est ma série la plus ancienne. C'est une série jeunesse pour les 5-10 ans. Et qui commence vraiment en plus à prendre de l'ampleur. Donc je suis obligé de travailler beaucoup plus sur celle-ci, par exemple, en ce moment. Okay. Et je développe de nouveaux projets. Il y a Kid Paddle, effectivement. Il y a Apocaline qui sortira chez Glénat. En juin là, donc c'est encore une nouvelle série que je lance, et puis je suis aussi dans le journal de Spirou, je fais des pages régulièrement. Je suis habitué à travailler comme ça, et puis après je suis entouré de gens aussi qui me conseillent quand je travaille en atelier et que je bloque, je peux montrer à quelqu'un qui me débloque, donc il y a aussi des petits raccourcis, mais je travaille beaucoup, honnêtement. Je crois que je compte pas mes heures et je travaille même le soir avant de me coucher. Après, j'aime ça, donc ça va.
Ouais, j'allais dire, un vrai passionné. Nous allons faire une petite pause musicale, Romain, avec Tu avais choisi comme par Jane. Donc, on se retrouve juste après. Merci.
Super.
Présence à Figeac 97.7.
Come on, baby, come on, we show you the world.
Et nous voilà donc de retour à l'antenne pour les mille et une bulles, toujours sur Radio Présence, et toujours en compagnie de notre ami Romain Pujol.
Ah oui, ça fait plaisir cette petite musique de Jane, j'aime beaucoup moi.
Ah oui, j'avoue, ça a mis l'ambiance dans le studio, et j'ai mon assistant qui était en train de danser sur la table, c'est assez sympa.
Et... c'est une chanteuse toulousaine, je tiens aussi à préciser, c'est mon côté un peu
ah, chaud. Je savais pas. Ouais, franchement, j'avoue, je connaissais pas, j'ai apprécié, mais je connaissais pas. Donc d'accord. On va continuer l'interview avec une question rituelle de l'émission. Parce que bon, même si je vois que tu es très occupé, est-ce que Romain a envie de faire autre chose dans la vie ? Enfin, est-ce qu'il peut faire autre chose dans la vie ? Le cinéma, lecture, enfin, je ne sais pas.
Alors moi, comme je fais du dessin et de l'écriture, j'aimerais bien me lancer vers l'écriture, mais pour un autre média, effectivement, et peut-être télévision ou cinéma. Mais bon, ça,
ah, oui.
on peut toujours rêver, mais l'idée déjà, c'est d'être bien crédible dans mon métier et ensuite de faire mes preuves dans un autre milieu.
Et après, sinon, tu as le temps, je sais pas, de faire du sport ou non, vraiment, c'est...
Alors, faire du sport, j'en ai fait un peu. Le Covid a un peu cassé le mood et l'état d'esprit sportif, mais là, je m'y remets peu à peu. En fait, pendant le Covid, c'était un peu une sale période, c'est un peu cassé la dynamique que j'avais. Et je m'étais mis aussi à fumer des cigarettes. Là, j'ai arrêté d'ailleurs début janvier, et maintenant, je me remets au sport. Donc, j'essaie de me... Il m'a fallu un petit temps pour me remettre dans le bain. Et donc là, voilà, je vais me remettre au sport. C'est prévu que dans l'année, je perde la petite bedaine traditionnelle du dessinateur.
Il n'y a pas que le dessinateur, je te rassure. Il n'y a pas que ça. Et du coup, donc ça, c'est nickel. Et après, donc, alors, plus question technique, parce que je le demande depuis quelques temps dans l'émission. Tu travailles en traditionnel ou en numérique ?
Alors... moi maintenant je travaille quand même quasiment à 90% en numérique. Quand j'ai commencé les Lapins Crétins, c'était en tradi, les trois premiers tomes sont en tradi et il y a une partie numérique pour des retouches d'ancrage et des trucs comme ça. Mais passé le tome 3, je me suis dit bon ben on va faire full numérique parce que ça fait gagner énormément de temps. Ça évite des étapes un peu fastidieuses de scannage de planches, d'avoir tous les outils, de faire les contours de cases, alors que en numérique, on peut avoir déjà des contours tout prêts. Pour le lecteur, ça change rien. Visuellement, il n'y a aucune différence. Et pour moi, ça me fait gagner du temps, donc autant utiliser le numérique. Et même des auteurs, moi, je parlais de Serge Carrère tout à l'heure, qui lui a vu commencer en traditionnel, full traditionnel, commence à se mettre au numérique maintenant, quoi.
Ah oui, mais c'est vrai que la galère qu'il a derrière lui...
C'est-à-dire on a plus le choix maintenant. Enfin, c'est vrai qu'il faut, il faut aller beaucoup plus vite. On n'est pas mieux payé qu'avant. Comme dans tous les métiers, quoi, il y a des soucis de rentabilité. Donc il faut aller plus vite.
Ça c'est, ouais, malheureusement, c'est bien vrai. Donc maintenant, nous allons faire... donc c'est pareil, c'est rituel dans l'émission. C'est un portrait chinois. Donc je te pose des questions. Et donc au tac au tac, balances ce qui passe par la tête. Donc, première question, si tu étais un super-héros, lequel serais-tu ?
Je pense que Spider-Man, ça doit être assez kiffant quand même, Spider-Man.
Ah ouais, c'est pas... rien que le costume, j'avoue. Ouais.
Ouais. Oui, bon, il est un peu moulant, donc vraiment, il faut que je me remette au sport.
Ouais, non, mais justement, moi, j'enlève ça, parce que oui, moi aussi, il faut que je me remette au sport, donc on va attendre un peu. Si tu étais un pays lointain, lequel serais-tu ?
Ah, le Japon.
Ah, t'aimes le Japon ?
Ah, je suis amoureux de la... De cette culture-là, de cette civilisation, de ce pays. Je lis beaucoup de mangas, mais c'est pas ce qui me fait aimer le pays, mais c'est la culture, c'est la cuisine, c'est la politesse, l'hygiène, tous ces trucs-là que je trouve fantastiques et qui manquent un peu à dans notre pays. Mais quoi qu'en gastronomie, on se défend bien. Mais bon, le Japon, quand même, ça me fait rêver. Quoi.
Ah mais, non, mais j'avoue que ça me rappelle une anecdote. Oui, les Japonais sont très... au niveau hygiène, je crois que c'était une dernière Coupe du Monde de foot où les supporters avaient nettoyé les tribunes avant de partir. Ça, c'est extraordinaire.
Ah ben, oui, oui, non, mais ça, c'est pas étonnant. C'est vraiment un truc qu'ils font chez eux. Et même, il y a des anecdotes comme quoi on peut laisser son portefeuille sur un comptoir de bar, on va pas nous le voler. Enfin, il y a des trucs, juste, on perd un objet, on nous cherche pour nous le rendre, quoi, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de délinquance ni rien, ça doit exister, mais en tout cas, c'est quand même connu pour être plutôt safe et agréable à vivre, quand même.
Et si tu étais un animal sauvage, tu serais lequel ?
Waouh, un animal sauvage, peut-être. Moi, j'aimerais bien être un animal qui vole, hein, genre un faucon, un truc comme ça qui voit loin. Peut-être un animal. Après, j'ai un animal totem qui peut compter comme un animal sauvage, mais ça serait le makikata, qui est un lémurien, en fait.
Ah, parce que j'ai bugué là quand tu as dit le nom. J'ai dit je connaissais pas.
C'est un genre de lémurien, c'est le makikata, et c'est un animal qui est très solaire. Il aime bien, quand il y a un rayon de soleil, se mettre devant et profiter de la chaleur du rayon de soleil, vraiment en écartant les bras à fond, comme s'il bronzait, en fait. Et c'est super mignon à voir, et je me retrouve dans cet animal qui profite un peu de la vie.
Makikata, tu m'as dit ?
Makikata, ouais, tout à fait.
Parce qu'en fait, je crois que mon assistant est donc un lémurien, parce qu'il aimait aussi se mettre au soleil et attendre que ça passe. Ah, tu vois, Armand, je t'avais dit. Et si tu étais donc une invention, récente ou ancienne ?
Une invention, je pense que si je dis l'imprimerie, je vais pas. Je reste dans mon métier. Je pense que sans ça, cette invention, je me fais pas connaître. Donc je préférerais que ça existe bien. Et puis c'est quand même fou de pouvoir partager en grande quantité des œuvres, des idées comme ça qui se propagent partout dans le marché. C'est assez fou quand même. Je suis l'imprimerie.
D'accord. Et si tu étais un homme célèbre de n'importe quel domaine ?
Un homme célèbre de n'importe quel domaine ? Ouais. Waouh. Si j'étais, genre, vraiment, je peux rien avoir à voir avec lui et je peux être lui, en fait.
Oui, c'est l'homme célèbre que tu admires.
Moi, je serais plutôt dans le délire scientifique et en même temps, je serais plus peut-être quelqu'un de Albert Einstein, quelqu'un comme ça qui a vraiment eu un degré de connaissance et de savoir qui nous dépassait tous. J'aurais bien aimé savoir ce qui se passait dans sa tête à ce monsieur, en fait.
Oui,
ça doit être assez étonnant. Donc, ouais. Et puis, il a tellement apporté que. Ouais, j'aimerais bien être ce genre de gens.
Ouais, un grand monsieur. Si tu étais une sucrerie ou une friandise, enfin quelque chose qui te donne envie.
Alors là, je vais faire des déçus, mais moi je pense que je serais peut-être un carensac ou la réglisse, un rouleau de réglisse. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, mais c'est mon délire ça.
Ouais, j'avoue, je suis pas fan de réglisse, mais ouais, bonne réponse. Si tu étais, alors la question, j'essaie de la poser à chaque fois, et des fois j'ai des surprises, c'est marrant. Si tu étais un gros mot.
Un gros mot ?
Oui.
On peut dire ce qu'on veut là.
Vas-y.
Non, alors là, j'essaie de voir, il y a pas... je serais peut-être puteng avec un G à la fin.
Eh ben, alors c'est marrant parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Je crois que c'était Stéphane Louis, je crois, dans une interview qui me l'avait dit, c'était marrant.
Eh ben, parce que c'est régional aussi et c'est l'insulte de chez nous, quoi.
Oui, je répéterai pas, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, Toulouse. Si tu étais un défaut.
Alors, même si je travaille beaucoup, je dirais quand même la paresse. De temps en temps, je me trouve un peu trop paresseux, un peu trop. J'ai tendance à peut-être inorganisé aussi. J'ai un penchant pour les deux. C'est-à-dire que des fois, il faut vraiment que je fasse mes plannings, que je me mette bien dedans, sinon. Il y a des journées qui filent et je fais presque rien, ou je travaille mal, en fait. Donc peut-être inorganisé. Ce serait peut-être le défaut qui me conviendrait le mieux, ouais.
Alors, je veux parler chez mon assistant, mais ça fait presque un nouveau point commun.
Mais c'est sûr que c'est pas moi qui suis...
Là, il me regarde des yeux, et genre, il lui a coupé le micro, en plus. J'ai dit, il est comme ça, il est pas commode. Et alors, dernière question, parce que malheureusement, tu vois, ça passe très très vite à ta compagnie. Si tu étais un film, pareil, n'importe quel film qui t'a marqué...
Si j'étais un film, je serais direct. Hein, le choix pour moi, il est évident, ça serait Retour vers le futur.
Ah oui, j'adore aussi.
Préféré.
Ouais.
Idéalement, si on peut me mettre la trilogie, je préférerais. Mais bon, s'il faut en choisir qu'un, je choisirais peut-être le deuxième, d'ailleurs. Et voilà, Retour vers le futur qui m'inspire encore aujourd'hui, même dans l'écriture, et qui se revoit sans fin, quoi.
Eh bien, écoute, on va se quitter sur ces mots. Je te remercie, Romain Pujol, d'avoir participé à cette interview sur Radio Présence Figeac 97.7.
Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous.
Eh bien, franchement, ça m'a fait plaisir. Et toi, on va rester dans le contexte Toulouse, parce que le prochain invité, ce sera Médéric Combette. Merci, au revoir.
Au revoir.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.